Bonjour à toutes et à tous, René Lavergne avec vous à l'antenne de Radio Campus 106,6 FM pour le magazine que vous retrouvez chaque semaine consacré à l'université. Aujourd'hui nous allons parler science et donc un magazine consacré entièrement aujourd'hui aux ondes gravitationnelles. Ce sera en effet grâce à une prochaine journée dédié à ces ondes gravitationnelles, que vous pourrez en savoir davantage et compléter tout ce qui va être dit aujourd'hui dans cette émission par notre invité, M. Daniel Henquin, qui est chargé de recherche au CNRS. Bonjour, M. Henquin.
Bonjour, René.
Donc, on a l'habitude maintenant de se rencontrer, puisque vos travaux sont toujours, pour nos auditeurs, des choses qui nous paraissent essentielles à présenter. Est-ce que vous pouvez nous dire, je peux vous lire ce que j'ai trouvé comme définition, mais ce que sont exactement les ondes gravitationnelles?
Alors les ondes gravitationnelles, ce sont des ondes qui se propagent dans l'espace-temps, c'est une déformation de l'espace-temps. C'est donc lié à la théorie de la relativité générale. Alors, là, en gros, la relativité générale nous dit que l'espace-temps est quelque chose qui existe, qui a vraiment une structure, et donc on peut faire propager des ondes dans cet espace-temps, exactement comme à la surface de l'eau, par exemple.
Alors, nous qui avons, j'allais dire, une façon d'aborder les choses très finie en termes de capteurs, tant au niveau de l'ouïe que de la vue que d'autres sens, pour découvrir ce dont nous allons parler aujourd'hui, bien sûr il faut d'autres, on va dire des objets qui prolongent, des objets scientifiques qui prolongent nos compétences.
Tout à fait, c'était d'ailleurs tout le challenge de la découverte des ondes gravitationnelles, il y a un peu plus d'un an, c'était construire un instrument capable de détecter ces ondes qui en fait sont extrêmement faibles. Il faut imaginer qu'on doit détecter des variations qui sont des millions de fois plus faibles que la taille d'un atome, par exemple. C'est vraiment des ondes qui viennent modifier localement l'espace-temps, mais avec une amplitude extrêmement faible. Donc c'est vraiment un challenge de les détecter, en fait.
Donc la théorie de la relativité, c'est Einstein qui l'a signée, on va dire. Et donc, à cette époque-là, il a fait fonctionner non pas des instruments, mais quoique peut-être quelques-uns, mais surtout son cerveau.
Exactement.
Et c'est quand même incroyable.
Oui, c'est incroyable. C'est incroyable que Einstein ait prédit l'existence de ces ondes gravitationnelles et que, même presque exactement un siècle après cette prédiction, on les détecte enfin directement. Il aura fallu attendre un siècle pour qu'on ait la technologie nécessaire pour les détecter.
Est-ce qu'on peut dire, en l'occurrence, en ce qui le concerne, que l'intelligence, c'est un sens supplémentaire?
Oh oui, bah pourquoi pas. C'est une façon de voir les choses. Oui, effectivement.
Donc on va parler de cette fameuse journée du lundi 20 mars, précisons bien, 2017, la nuit des ondes gravitationnelles. Vous allez nous expliquer où ça va se passer et qu'est-ce qu'on pourra y faire, y voir, y ressentir.
Alors, effectivement, donc on s'est dit qu'un an après la première observation directe des ondes gravitationnelles, qui est une découverte vraiment importante, parce qu'il faut bien se rendre compte que jusqu'à présent, tout ce qu'on connaissait de l'espace provenait de la lumière. Ce qu'on connaît des étoiles, ce qu'on connaît des galaxies, ce qu'on connaît du Big Bang, des galaxies très lointaines en tout cas, nous arrive par l'intermédiaire de la lumière, et c'est en analysant cette lumière qu'on peut connaître par exemple la composition d'une étoile, sa distance et ce genre de choses. Par contre, il y a un type d'objet céleste qu'on appelle les trous noirs qui est un peu plus délicat puisque eux, ils émettent pas de lumière. Donc voilà, la lumière a quand même ses limites. Et les ondes gravitationnelles sont donc une alternative à cette lumière. C'est donc vraiment un nouvel outil pour... c'est une nouvelle astronomie, en fait. C'est vraiment une nouvelle astronomie. Maintenant, au lieu de regarder avec les yeux, eh bien, on pourra regarder avec des détecteurs d'ondes gravitationnelles.
Alors déjà, dans le champ de l'hyperpetit, on a plein d'objets qui peuvent révéler des choses qui ne sont pas exactement la photo de ce qu'elles transcrivent. Ça veut dire, je traduis, que ceux qui ont des microscopes particulièrement électroniquement très très puissants, ils peuvent révéler des formes qui sont basées sur des détections, mais qui ne sont pas physiquement celles qu'on pourrait voir à l'œil nu. Enfin,
L'exemple vraiment standard, c'est quand vous regardez toutes ces magnifiques photos d'astronomie qu'on voit aujourd'hui, qui sont délivrées par les télescopes qui sont en orbite, tous les grands télescopes au Chili. Si on regarde à l'œil nu, on ne voit absolument pas ça. Ce sont des photos qui sont recomposées à partir de ce qui a été détecté dans l'infrarouge, dans le visible, avec des rayons X, enfin voilà, avec plein de gammes différentes. Et il y a un travail, quelque part, il y a un travail d'artiste derrière, parce qu'effectivement, il faut prendre toutes ces images et puis les mélanger pour faire ressortir la structure spatiale de l'objet qu'on est en train de regarder, de la galaxie, du nuage interstellaire, et ça relève finalement effectivement de l'art, dans la mesure où quelle couleur choisir par exemple pour représenter les rayons X, c'est une décision totalement arbitraire en fait.
Alors, c'est vrai que les représentations de mondes qui sont difficilement perceptibles, c'est quand même un vrai enjeu pour nos découvertes futures.
La représentation de... Oui, tout à fait. Enfin, on est toujours à la recherche de davantage de connaissances sur l'univers. Il n'y a pas que la naissance de l'univers, je parlais du Big Bang, il n'y a pas que la naissance de l'univers, il y a aussi par exemple l'existence de vie ailleurs dans l'univers. Donc trouver des outils alternatifs qui permettent de faire ces observations, ça ne peut être qu'une très très grande avancée. Bon, maintenant les ondes gravitationnelles ne nous donneront pas d'informations sur l'existence de la vie ou pas. Par contre, ça nous permet, la première détection des ondes directes des ondes gravitationnelles, donc il y a un peu plus d'un an, c'est aussi la première détection d'une collision de trous noirs. Première observation directe d'une collision de trous noirs, c'est quelque chose. Enfin, il faut imaginer des trous noirs qui sont des choses qui ont des masses de plusieurs fois celles du Soleil et qui viennent en quelques millièmes de seconde. Qui se mettent à tourner autour l'un de l'autre et qui viennent se rejoindre pour ne former qu'un seul trou noir, c'est quelque chose d'extraordinaire. On est au-delà, à la limite, de ce qu'on voit dans les films de science-fiction, quoi. Mm-hmm.
Alors, est-ce que plus de connaissances, ça veut dire aussi plus de compréhension ?
C'est en tout cas plus de compréhension sur ce qu'on observe, tout à fait. Les paramètres, les propriétés des... je prends un exemple très concret. Depuis cette première observation donc d'une collision de trous noirs, il y a eu deux autres observations, je crois. Les spécialistes du domaine sont surpris. Ils ne s'attendaient pas à en voir autant. Voilà, ça signifie que notre vision, notre connaissance, enfin, en gros, ce qui nous permet de décrire l'univers est encore à ajuster dans ce sens-là pour arriver effectivement à ce qu'on observe.
Si Einstein revenait, ou un de ses collègues, est-ce qu'il serait surpris de voir l'état de la recherche ?
Alors, ça dépend de quel point de vue. Il sera peut-être surpris sur la façon dont ça se passe maintenant, sur le métier de chercheur, qui est parfois un peu éloigné du métier de chercheur, si je puis dire. Par contre, je n'ai pas croisé Einstein, hein, soyons clairs, mais je ne pense pas qu'il serait surpris des avancées extraordinaires qui ont été faites depuis qu'il est parti. Ce qui le surprendrait peut-être, c'est qu'on a toujours, comme à son époque, deux théories différentes pour décrire notre univers, hein, la théorie quantique et la théorie de la relativité générale, et que ces théories ne sont toujours pas compatibles entre elles, c'est-à-dire que 100 ans après la théorie de la relativité générale par Einstein, eh bien, on n'a toujours pas réussi à rendre compatibles ces deux théories.
On les enseigne toutes les deux, néanmoins.
Bien sûr. Ces deux théories ne sont pas compatibles, mais dans leur domaine, c'est-à-dire en gros, en ce qui concerne l'infiniment grand pour la théorie de la relativité générale et l'infiniment petit pour la mécanique quantique, ce sont des théories extraordinaires qui n'ont jamais été remises en cause. C'est pire que ça. Ce sont des théories qui sont utilisées quotidiennement. La mécanique quantique, on estime que c'est à peu près 60% de notre économie aujourd'hui qui est basée sur la mécanique quantique. Un ordinateur sans la mécanique quantique, ça n'existerait pas dans l'état où c'est actuellement. À l'inverse, la théorie de la relativité générale, par exemple, si on ne l'utilisait pas dans les GPS, les GPS se tromperaient. Sans les correctifs liés à la théorie de la relativité générale, un GPS, si vous le calez au jour J. Le lendemain, il se trompe de 7 km. Le surlendemain, il se trompe de 14 km, etc. Voilà. C'est donc la théorie de la relativité générale a des applications très pratiques aussi. Mmh.
Est-ce que les ondes gravitationnelles sont exploitables ou exploitées en recherche-développement ?
Non, là, on en est encore très très loin. Cette détection, détecter les ondes gravitationnelles, comme je le disais, c'est détecter le mouvement. On détecte ça avec des lasers, avec un interféromètre de Michelson et avec des lasers. Il faut détecter le mouvement d'un miroir, le mouvement d'un objet, sur des distances, comme je vous le disais, de milliards, enfin, je peux même pas l'exprimer, c'est pas des milliards de gemmes, c'est des milliards de gemmes, de milliards de gemmes, de milliards de gemmes, de millimètres, c'est des distances infinitésimales. Voilà, on a maintenant donc trois instruments qui existent dans le monde qui permettent de détecter ces ondes gravitationnelles. Le LIGO, les deux instruments LIGO aux États-Unis et puis Virgo en Europe, en Italie. Et on est loin d'être dans un processus de développement lié à l'industrie ou ce genre de choses. Et de toute façon, il faudra déjà trouver une application. Alors, je ne doute pas qu'on en trouvera une un jour. Je crois que les êtres humains sont très prolifiques et très ingénieux quand il s'agit de trouver des applications. Mais on n'en est pas encore là, en tout cas. On est encore sur ce qu'on appelle des grands instruments qui sont compliqués à mettre en œuvre et qui demandent d'ailleurs des budgets assez importants quand même.
Donc cette nuit dédiée aux ondes gravitationnelles sont destinées bien sûr aux curieux de la science ou à ceux qui pourraient d'un seul coup le devenir, pourquoi pas envisager des études scientifiques.
Oui, alors on a conçu cette nuit comme effectivement une manifestation destiné à tous les publics, je dirais, donc aussi bien les étudiants du campus, mais même le grand public qui viendrait de l'extérieur du campus. On en a fait un événement festif. Alors, il faut rappeler que la nuit des ondes gravitationnelles, c'est quelque chose qui va se dérouler dans 10 villes en France et en Italie, à Cascina, c'est-à-dire là où se trouve Virgo, le détecteur d'ondes gravitationnelles. À Lille, on a pris le parti de commencer la nuit avant, c'est-à-dire dès 15h, il y aura des animations à l'espace culture, où on pourra justement découvrir, à travers des manips de démonstration, ce que c'est que la gravitation, ce que c'est que les mirages gravitationnels. Voilà, il y a des choses qui existent comme ça, les mirages gravitationnels, qui sont une autre façon de démontrer la réalité de la relativité générale et qui ont été observés par contre depuis des années. Cela. Et puis comment on détecte une onde gravitationnelle, c'est de l'optique, c'est ce qu'on appelle un interféromètre de Michelson. Donc il y aura ça à l'espace culture. Il y aura aussi, en fait, dans le cadre de cet événement, il y a des concours photos qui ont été il y a des concours qui ont été organisés à destination des scolaires et du grand public, et essentiellement donc pour ce qui nous intéresse ici, un concours photo et un concours de bande dessinée. Et donc les planches de bande dessinée et les photos seront exposées à l'espace culture également donc à l'occasion de cet après-midi de cette pré-nuit, si je puis dire, des ondes gravitationnelles. Voilà, vous pourrez aussi vous amuser à jouer avec des trous noirs. Il y a un jeu de pong, vous savez, les ping-pong électroniques là, sauf que c'est des trous noirs, du coup ça se comporte pas du tout comme des balles classiques. Donc vous pourrez jouer avec ce genre de choses. Et puis la nuit elle-même, donc qui démarre à 18h30.
À l'Iliade,
cette fois, donc juste en face. Elle commencera donc à 18h30 par une conférence sur les ondes gravitationnelles. Elle est intitulée « Comprendre la première détection des ondes gravitationnelles », donc qui sera donnée par deux chercheurs d'un laboratoire parisien. Et ensuite, on enchaînera sur un multiplex avec l'ensemble des villes qui participent à la nuit, et surtout avec Virgo, c'est-à-dire avec le détecteur d'ondes gravitationnelles. Il y aura notamment une visite absolument exceptionnelle de la salle de contrôle de Virgo. Il y aura une visite du labo de Lyon, par exemple, qui a fourni les miroirs de l'interféromètre. Il y aura des jeux, il y aura un quiz par exemple entre toutes les villes, donc on pourra désigner à la fin quelle ville gagne, quoi. Et puis sur la fin de la soirée, qui se terminera en fait à 22h30, donc à partir de 21h à peu près, il y aura une table ronde qui sera animée par Florence Porcel. Ceux qui s'intéressent à l'astro la connaissent certainement, puisqu'elle a elle a une chaîne YouTube sur l'astronomie, l'astronautique, l'astrophysique. Donc ce sera, cette table ronde parlera de la gravitation au cinéma. Et on y découvrira des films très récents, comme Interstellar, par exemple, qui a beaucoup traité de trous noirs, notamment. Mais on trouvera des films beaucoup plus anciens. Je pense notamment à un film de 1942, en noir et blanc, donc, qui est le premier film où on trouve une apparition de Bourville, qui n'est même pas cité à l'époque. C'était vraiment un simple figurant. Et ça s'appelle le film... Alors, j'ai oublié le titre exact. Je crois que c'est Croisière stellaire ou quelque chose comme ça. Et il traite effectivement de la théorie de la gravitation et vous savez de ce fameux paradoxe qui est que quand on s'éloigne de la Terre à une vitesse très très élevée, quand on revient, la Terre a vieilli beaucoup plus que les gens qui étaient dans l'astronef. Mmh.
Donc effectivement, on peut avoir des cheveux blancs en arrivant, comment ça se passe?
Oui, là en l'occurrence, l'histoire de ce film, c'est un... Bon, il faut imaginer, hein, 1942, on n'a pas encore été sur la Lune.
Sa fille qui est plus vieille que
ouais,
nous,
oui.
C'est ça.
Et là, en l'occurrence, donc, ils vont faire une croisière dans la haute atmosphère, il y a un incident, ils se retrouvent sur Vénus. Où ils débarquent d'ailleurs. Hein. Bon, à l'époque, on ne savait pas trop comment était Vénus. Voilà, donc ils arrivent à se dépanner. Ils reviennent au bout de 15 jours, je crois, et ils découvrent que la Terre a vieilli de 25 ans.
Mmh. Voilà. Donc là, on est à la marge entre science et art, on va dire.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'on pourrait aussi dire à nos auditeurs? Alors, je rappelle que là, on est en train de parler d'une nuit, enfin, même qui commence à 15h à l'Espace Culture, lundi, la semaine prochaine, donc le 20, à 15h donc à l'Espace Culture, qui se poursuit ensuite à l'Iliade à partir de 18h30. Et on a parlé justement de ce développement d'activités et de démonstrations jusqu'à 22h30. Donc, les personnes qui vont venir, elles seront a priori... Est-ce qu'elles doivent s'inscrire déjà?
Elles peuvent s'inscrire, mais il y a un site d'inscription où il vous suffit de taper Nuit des ondes gravitationnelles. Enfin, je vais vous donner le site, hein, c'est cnrs.fr/Nuit des ondes gravitationnelles, mais ouais. C'est plus simple de taper Nuit des ondes gravitationnelles, on le trouve beaucoup plus vite. Ouais. Et là, elles peuvent choisir dans le programme donc, la ville de Lille et s'inscrire. C'est pas obligatoire, sauf si on dépasse la capacité des salles, on refusera personne. Quoi.
D'accord. Donc là, on est sur, on va dire, une journée. Qu'est-ce qui va se passer ensuite pour vous, les retombées? Vous imaginez quoi?
Nous, on organise cette nuit vraiment d'une façon... C'est un petit peu comme la nuit des étoiles. Hein. C'est d'ailleurs à Paris les mêmes organisateurs hein, qui sont derrière cette initiative. Ouais. Voilà, l'idée, c'est de faire rêver, hein, de faire rêver les gens, de montrer que la science, même parfois ardue, parce que quand on parle de relativité générale, je crois qu'on fait peur à beaucoup de personnes. Mais au final, derrière, il y a de très belles choses à voir, il y a de très bonnes choses à observer. Il y a des applications très concrètes, comme je le disais. Et puis ça inspire les artistes. Je parlais du concours photo. Alors le concours photo s'appelle dans l'œil du trou noir. Ça consiste, le challenge était de produire des photos qui étaient déformées par la présence d'un trou noir en fait. Voilà. Et on trouve les photos seront exposées très rapidement maintenant à l'Espace Culture et vous les verrez. Je pense d'ailleurs que vous les voyez depuis aujourd'hui sur les écrans de l'Iliade et de l'Espace Culture en diaporama. Et voilà, il y a des photos qui sont vraiment magnifiques.
Est-ce qu'on peut conseiller aux personnes intéressées hein, de faire un petit tour avant sur le site, la chaîne de Donatella Fiolucci?
Oui, qui est donc l'une des intervenantes de la conférence donc entre 18h30 et 19h30.
Ça bien permet sûr. D'avoir quelques codes d'accès
tout
pour aborder la conférence,
tout
ce serait
fait.
Bien.
Tout à fait. Ce que je conseille honnêtement, si ceux qui veulent venir à la conférence ont le temps, passer avant à l'Espace Culture, puisque sur les manips de démonstration dont je parlais, vous trouverez les deux conférenciers. Mm-hmm. Donc vous pourrez déjà échanger avec eux, et ils pourront déjà vous commenter peut-être avec les mains. Enfin, c'est toujours différent de montrer des choses et des petites expériences que de simplement parler d'une conférence. Quoi.
Alors, Daniel Lincoln, je rappelle que vous êtes chargé de recherche CNRS, c'est le laboratoire Flamme, hein, c'est
ouais,
bien
tout
ça.
À fait.
Hein. Et est-ce que dans le cadre de ce laboratoire, vous avez également des productions que vous proposez au grand public, voire des chaînes YouTube ou des choses qu'on
Alors,
peut
dans le cadre du laboratoire, on n'a pas de production. Par contre, dans le cadre de l'université de Lille et d'Uniciel, on a notamment, donc, en ce qui me concerne, la chaîne Kezako, la série Kezako, qui est une série de petits films au format web, hein, entièrement libre d'utilisation et qui est en l'occurrence, qui sont fortement utilisés. Quand j'ai des formats web, donc entre 3 et 6 minutes, typiquement, dont l'objectif est de répondre à une question de sens. Voilà, donc actuellement, il y a 70 épisodes. Ça va de pourquoi le ciel est bleu, comment fonctionnent les radars, qu'est-ce qu'un trou noir, jusqu'à des questions du style pourquoi le rideau de douche colle à la peau quand on prend une douche, par exemple. Donc des questions, peut-on marcher sur l'eau, par exemple. Des questions qui sont plus... dont l'abord initial, au premier abord, des questions qui semblent un peu plus farfelues. Ceci dit, ces questions sont toujours traitées de façon très scientifique, si je puis dire, c'est très rigoureuse. Et voilà, quand on pose la question, peut-on marcher sur l'eau, y a les araignées qui marchent sur l'eau, il y a des lézards qui marchent sur l'eau. Voilà, comment ils font? Est-ce qu'un homme peut marcher sur l'eau? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il marche sur l'eau? Voilà, le rideau de douche qui colle à la peau. Pour la petite histoire, il y a quand même un chercheur du MIT qui a mobilisé pendant tout un week-end tous les ordinateurs du MIT pour faire des calculs, savoir pourquoi le rideau de douche collait à la peau, enfin pourquoi le rideau de douche rentrait toujours vers l'intérieur de la douche, quoi. Et il y a eu d'ailleurs un prix qu'on appelle le prix Ig Nobel.
Ah oui, oui, oui.
Qui est donné à des... Alors, si je me souviens bien, le prix est donné... Enfin, la façon dont est présentée les choses, c'est un prix qui est donné donc à des travaux qui peuvent faire rire au premier abord, mais qui sont finalement relativement profonds et qui font réfléchir.
Voilà. Donc, est-ce qu'on peut aussi proposer, avant de venir, la visite de votre site de Uniciel,
oui, bien sûr,
pour avoir aussi quelques clés d'accès, hein.
Ouais.
Voilà. Bah, je pense qu'on a un petit peu abordé ce sujet des ondes gravitationnelles et de cette nuit qui leur sera consacrée lundi 20 mars à l'Université Lille 1 sur l'espace de la Cité Scientifique. Donc, premier rendez-vous 15h30, on l'a dit, à l'espace culture, qui est le bâtiment blanc qui est en face et à gauche de la station de métro Cité Scientifique. C'est ouvert et gratuit à tous. Et le soir, à partir de 18h30, donc à l'Iliade, qui est en face, l'ancienne bibliothèque, on va dire, le grand bâtiment rond qui s'est prolongé maintenant avec des espaces de démonstration, d'exposition, de rencontres. Voilà. Un grand lieu, s'il en est dans la région, un beau lieu,
un très beau lieu,
fréquenté.
Hein, et on sera dans le Grand Amphi, hein, qui est vraiment un très très bel amphi, et on sera donc en multiplex avec une douzaine de villes au total, et grâce à cet amphi, on va avoir des liaisons de très très bonne qualité.
Voilà, bien, nous on n'en est pas aux ondes gravitationnelles, mais on est sur des ondes hertziennes. Vous êtes sur le 106.6 FM Radio Campus et vous êtes avec Daniel Elkin, que je remercie et à qui je souhaite bonne soirée pour le lundi et puis à bientôt pour d'autres aventures.
D'accord, merci beaucoup.
Très bonne journée.